Isabelle Jobe-Basile, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, bonjour. Directrice des études économiques de Crédit Agricole et ça. Christian de Boissieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris à Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, qui est donc partenaire de cette émission. Et nous nous retrouverons dans quelques jours à Aix-en-Provence. Vous avez coécrit un livre de contribution, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui, ou la mondialisation en question, chez Laurent Dumini, l'éditeur. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC et co-auteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériel, publié chez Flammarion. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui réalisent des profits totalement historiques. J'ai pas forcément envie de dire super profit, parce qu'il y a une sorte de jugement de valeur, ou extravagant, ou... Total Energy, au premier trimestre 2022, a dégagé 9 milliards d'euros de bénéfices. Les années où il faisait 15, c'était déjà impressionnant. Et si on ramène cette dynamique sur un an, ça ferait 36 milliards. Engie a dégagé 5 milliards de profits au premier trimestre. L'an dernier, ils avaient fait 4. Déjà, en 3 mois, ils ont fait 1 milliard de plus. Et CMA-CGM, le grand transporteur, je crois, deuxième ou troisième mondial, en est à 7 milliards de profits au premier trimestre. Ils avaient réalisé 18 milliards de profits en 2021. Qui commence ? Augustin. Si on considère que c'est pas le talent de Total qui fait gagner autant d'argent, c'est le prix du baril. C'est pas le talent de CMA-CGM, c'est juste une inflation incroyable du transport maritime. Mm-hmm. Donc moi, si je suis langue de vipère, je vais dire ben c'est une rente. Mm-hmm. Et la rente, ça se taxe. Bon, qu'en pensez-vous ?
Oui, alors pourquoi c'est pas forcément une bonne idée ? Déjà, juste pour rappeler un peu le pour, le contre. Donc le contre, taxer les profits exceptionnels, c'est que l'énergie, c'est très cyclique par nature. Mmh. Il y a des bonnes années, il y a des très mauvaises années. Le prix du pétrole, il est brut, il n'est pas à un niveau délirant en un sens. Il est au niveau où il était, je crois, en 2006, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, on n'est pas sur des niveaux historiquement complètement délirants. C'est juste que ça remontait très vite, donc les gens s'y attendaient pas. Et ça crée un choc.
Puis l'euro est faible face au dollar, voilà. Ce qui fait que ça...
Le problème, c'est qu'on a... Je crois qu'il y a un mea culpa à faire et des changements de politique à faire, c'est qu'on a beaucoup encouragé ces entreprises à ne pas investir. On s'est dit, il faut vraiment les convaincre que le pétrole, c'est fini. Là, non, c'est pas fini. Donc là, on est embêté. Mais les taxer massivement, c'est certainement pas s'assurer qu'elles continuent d'investir, qu'elles acceptent de produire à des tarifs plus élevés parce que là, il y a vraiment un besoin, etc. Donc non, moi, je pense que c'est distorti. Il faut pas se raconter d'histoire. C'est pas neutre de faire une taxe de ce type-là. Après, je pense qu'il faut se caler sur... si tous les autres le font, en un sens, ça devient plus utile de le faire.
Fait, Grande-Bretagne mais le fait, l'absolu. Hongrie, l'Allemagne y réfléchit. Alors, est-ce que tout le monde prend ses décisions pour des raisons de messages politiques ?
En tout cas, je pense que c'est important de réaliser que c'est distortif et que ça ne va pas faciliter le fait d'accélérer... on voit bien que là, on a des problèmes d'infrastructure. Donc, si on veut accélérer l'arrivée des terminaux qui sont capables de réceptionner du gaz liquide, etc., ce n'est pas le genre de message qui va accélérer ce type d'investissement dont les entreprises savent que c'est au fond des choses assez temporaires et que voilà, ça va aider sur les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, mais pas plus loin. Donc il faut vraiment les encourager, au contraire, à prendre au sérieux le signal prix.
La Grande-Bretagne espère quand même près de 6 milliards de recettes en taxant à 25%. Un avis là-dessus, oui, Isabelle Jobe-Basile.
Mais après, du coup, je suis assez d'accord, c'est du coup, il faudrait peut-être regarder les bénéfices non réinvestis.
Là, on est sur quelque chose de plus constructif.
Voilà,
évidemment.
Un petit peu plus constructif, c'est-à-dire de pas vraiment être dans la punition de quelque chose sur lequel ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais en tout cas, on sait que ces secteurs, que ce soit l'énergie, le transport, ont des enjeux massifs de transformation, de transition, et ils investissent et ils doivent investir énormément. Donc, il faut effectivement encourager ce type d'investissement et donc faire en sorte qu'ils réinvestissent, même si c'est des surprofits, mais au moins qu'ils les réinvestissent dans la transition.
Il y en a un qui a payé déjà, c'est EDF. On leur a bien tordu le bras là, sur les tarifs régulés de l'énergie nucléaire. Pas combien ça va leur coûter sur l'année, mais un bon 7-8 milliards d'euros. Mmh. Même constat, Christian de Boissieu, vous allez vous ranger du côté des...
Moi, je suis...
Vous allez dire des bien-pensants qui veulent
comme
taxer.
Comme d'habitude, assez modéré. Il y a des gagnants et des perdants dans toute évolution économique, et c'est accentué à travers ce que nous vivons en ce moment, et l'explosion des prix énergétiques, alimentaires, etc. Je suis... comme mes petits camarades David, de séparer les bénéfices réinvestis de ceux qui ne sont pas réinvestis, parce qu'il faut encourager l'investissement. J'ajoute un point, c'est que c'est difficile aussi de pas du tout parler de la question des salaires quand on aborde ce sujet. Parce que au fond, on peut dire, les entreprises qui font des profits, des super profits, il y a du grain à moudre pour augmenter les salaires un peu plus qu'ailleurs. Donc, le problème qui est posé, c'est le partage de la valeur ajoutée. Salaire profit au niveau de l'entreprise. Et je termine en disant que, bon, je ne suis pas sûr que la fiscalité soit le bon instrument ici, mais il faut quand même aussi éviter de désigner du doigt des entreprises. Moi, j'ai vécu dans des pays, je me souviens certains pays africains dans lesquels on désignait, c'était un autre sujet, mais on désignait telle entreprise qui avait fait des super profits, avec derrière des opérations de méfiance, etc. C'est toujours compliqué de montrer du doigt les entreprises. Donc il faut arriver à traiter le sujet plus par des incitations que par des punitions.
Évidemment. C'est un grand classique, hein, de toute façon. Bon, je passe, je ferme le banc. Je reste avec vous, Christian Leboissieu. La cote d'alerte sur les finances publiques, et en même temps, le même ministre nous dit bon, on fait 2,5% de croissance, on va faire 2,5% en 2022, c'est plutôt bien, c'est plutôt rassurant, et les fondamentaux de l'économie sont bons. Il y a, c'est un peu illisible ce message, et puis fondamentalement, quand j'entends que les fondamentaux de notre économie sont solides, avec 100 milliards de déficit du commerce extérieur, j'ai un peu de mal à être convaincu.
Écoutez, d'abord, l'hypothèse de Monsieur le maire et de Bercy, c'est qu'on va, on va faire 2,5% oui, en moyenne cette année. La Banque de France est un peu plus bas, 2,3%, si je ne m'abuse. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Je voudrais faire remarquer la chose suivante. Sur ces chiffres, vous avez quand même encore un effet de rattrapage post-Covid. Sur les à peu près 7% de l'année dernière, 2021, il y avait un gros effet de rattrapage. Là, je veux dire, ce qui compte quand même, c'est ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire le fonds de croissance de notre économie, compte tenu des facteurs d'offres. Et ce qu'on appelle la croissance potentielle, en France, bon, il y a des débats pour savoir à quel niveau, mais on est peut-être entre 1 et 1,5% par an. Et d'ailleurs, les prévisions, vous le dites comme moi, les prévisions 2023 sont en baisse par rapport aux prévisions 2022. C'est-à-dire, il y a l'hypothèse qu'on reviendrait progressivement en France comme ailleurs vers la croissance potentielle. C'est ma première remarque. Pas de cocorico sur le 2,5. Il y a beaucoup de rattrapage. Bon, ça n'empêchera pas peut-être d'avoir une récession, on verra, au premier semestre. Mais là, on raisonne en moyenne sur l'ensemble de l'année. Bon, deuxième remarque sur les finances publiques. On est quand même dans un débat où il est très difficile de séparer dans le temps ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on appelle demain. Aujourd'hui, on est encore clairement dans le quoi qu'il en coûte. Alors, c'est encore le quoi qu'il en coûte, une queue de quoi qu'il en coûte sanitaire, et ce que j'appelle le quoi qu'il en coûte ukrainien, c'est-à-dire les mesures qui sont prises pour maintenir le pouvoir d'achat et qui pèsent directement sur les finances publiques. Le chiffrage qui a été fait, c'est ces mesures pouvoir d'achat, c'est à peu près 50 milliards en année pleine. J'ai bien compris.
Vous vous rendez compte, 50 milliards de subventions des aléas de la vie de tous les jours.
En année pleine. Et ce que j'appelle le demain, ben je sais, ça, c'est pas demain au sens calendaire, mais c'est quand même la perspective qu'il faut déjà avoir, c'est qu'un jour, il faudra quand même reprendre la maîtrise de tout ça, c'est-à-dire des finances publiques. Alors, M. Le Maire prévoit un déficit public pour la France de 5% en 2022. On va voir. Moi, je suis un tout petit peu sceptique sur ce chiffre. Avec l'augmentation des taux d'intérêt et donc des charges d'intérêt de la dette publique, j'ai vu que l'augmentation prévue pour 2022 sur les charges d'intérêt, c'est plus 13 milliards d'euros sous des hypothèses de taux d'intérêt qui sont peut-être revues à la hausse.
Donc, c'est l'obligation indexée à l'inflation.
Voilà. Bon,
On va voir. Mais ça reste une charge d'intérêt.
C'est pas la remontée des taux qu'on voit aujourd'hui. Là, pour le coup, ça prendra un petit peu plus de temps avant que ça nous coûte.
L'obligation indexée, c'est pas 100% de la dette publique.
Non, c'est 250 milliards.
On va rentrer dans les chiffres, mais il y a les autres qui sont.
Non, mais je suis d'accord.
Bon, donc, et puis il y a du court terme qui va tout de suite prendre dans la figure la montée des taux d'intérêt dans la dette publique comme dans la dette privée. Donc je termine en disant que on laisse filer et en même temps on dit il faut commencer à réfléchir à la maîtrise de tout ça. Tout ça est un peu contradictoire.
Les fondamentaux, ils sont vraiment solides selon vous, Isabelle Job-Basile? Moi, j'ai quand même du mal à me dire que les fondamentaux sont solides aujourd'hui.
Alors, non, mais si, si on regarde quand même... Le 2,5, déjà, ça a été dit, on a quand même un acquis de croissance, donc ce qui est lié au rattrapage qu'on a eu en 2021.
Il faut rappeler que c'est lié au rattrapage, oui.
Voilà, on a un acquis de croissance de 1,9. Donc ça veut dire, si on regarde en glissement annuel, en fin d'année, notre croissance, elle sera plutôt autour de 0,5, 0,6. Enfin, on sera à peu près dans ces eaux-là. Donc ça veut dire qu'on on aura eu une croissance très modérée sur l'année 2022. Mais en revanche, quand même, on peut se féliciter. Pourquoi on en est là? C'est quand même toutes ces politiques de quoi qu'il en coûte ont quand même fonctionné dans une crise quand même exceptionnelle sanitaire, ce qui fait qu'on a quand même préservé le tissu productif. Les entreprises sont sorties de la crise avec des niveaux de marge très élevés. On a préservé l'emploi et les revenus, ce qui nous a permis d'aborder ce choc de pouvoir d'achat avec quand même des revenus qui n'avaient pas été amputés lors de la crise de la Covid. On a un taux de chômage qui est quand même bas par rapport à ce qu'on aurait pu craindre.
Par rapport à ce qu'on aurait pu craindre.
Voilà, par rapport à...
Ça me gêne toujours quand on dit qu'on a un taux de chômage bas parce qu'on est au-dessus de 7.
Par rapport à ce qu'on... Et on a encore une dynamique d'emploi, enfin, il n'aura échappé à personne. On est quand même très étonné, très surpris, et je crois qu'on n'arrive pas encore à expliquer pourquoi aujourd'hui l'emploi va plus vite que le PIB.
Vous êtes la deuxième en deux jours à dire qu'il y a des éléments sur l'emploi qu'on n'arrive pas à expliquer.
Ah non, mais on n'arrive pas. Enfin, on essaye par tous les moyens, enfin, on parle des apprentis, il y a le chômage partiel, etc. Mais globalement, quand même, alors ça a des implications sur la productivité. Mais et on ne sait
pas
de quelle nature.
Question d'économiste,
Voilà, on ne sait pas de quelle nature. Est-ce que c'est de nature structurelle ou conjoncturelle? Et ensuite, on aura le rattrapage. Mais un emploi aussi qui est assez dynamique. Donc voilà, globalement, on n'était pas non plus, même si vous le soulignez, on a effectivement un déficit commercial abyssal, mais si on regarde au niveau
du tableau, Isabelle,
mais le déficit courant, on a eu un excédent courant. Donc, tout ceci
première
fait
fois depuis 15 ans en 2021.
Je dis pas que c'est solide, mais en tout cas, c'était pas non plus catastrophique.
Il y a un autre truc que j'arrive pas, je n'arrive plus à comprendre. Je vois pas un chef d'entreprise qui n'a pas des problèmes de recrutement. Et on a encore quand même 7% de chômage.
Mais
il y a un moment, ça m'échappe. Ça défie les lois de la physique presque. Il y a un truc. Quoi donc ?
Bah non, parce que c'est...
Quoi, ben non, mais regardez. Catégorie A, bon, je préfère INSEE à Pôle emploi, mais 3,5 millions en catégorie A. Et il n'y a pas un patron qui, à tous les niveaux de diplôme, n'est pas en train de chercher du monde.
Bah oui, mais c'est les problèmes de matching, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes pour les jobs.
Soudainement, on s'est mis à plus du tout avoir les bonnes personnes pour les postes, alors que malgré tout, on y arrivait un peu mieux avant.
En tout cas,
c'est quand même dingue.
Ouais. On sait que le problème du chômage, il est quand même très très localisé sur les jeunes, les seniors, peu qualifiés. Donc c'est quand même une population très très spécifique. Et effectivement, c'est pour beaucoup des emplois, hôtellerie, restauration, vous cherchez pas forcément du personnel. Ni très jeune, ni très senior.
Ce qui me frappe, vous ne cherchez pas forcément des très qualifiés non plus.
Oui,
non.
Mais ce qui me frappe, Isabelle...
C'est dans l'hôtel-restauration, en l'occurrence, il y avait une population de non-qualifiés qui pourrait accéder...
Mais par exemple, les restaurants vous disent on n'a pas besoin que de serveurs, il nous faut des cuisiniers. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui est quand même qualifié, il n'y en a pas. Et je rencontre des chefs d'entreprise dans plein de domaines, même des bacs plus 3, 4, 5, notamment des ingénieurs, ils n'en trouvent pas. C'est bon.
Mais je crois qu'on dit beaucoup que c'est des questions de salaire, notamment dans certains secteurs,
ça
etc.
Ça peut jouer, ça.
Et en fait, de plus en plus, et je pense que c'est aussi ce que se disent les chefs d'entreprise, c'est aussi beaucoup sur les conditions de travail.
Exact.
Donc il y a quand même il y a une réflexion qui, je pense, au niveau de chaque entreprise, de réflexion sur comment mieux organiser le travail de manière à retrouver de l'attractivité dans leur métier. Si bien évidemment il y a des questions salariales, bien évidemment qui existent aussi. Mais il me semble que en parlant aux chefs d'entreprise, progressivement ils se rendent compte que c'est davantage en termes de qualité au travail.
Et de distance. Je suis frappé de ce que. Alors c'est peut-être lié au prix de l'essence ou de l'énergie en général, mais j'ai l'impression que les gens acceptent moins de bouger qu'avant. Moi, dans les endroits où je parle des vacances, et je pose la question au restaurant, je trouve personne à employer. Pour des raisons de salaire, pour des raisons de conditions de travail et pour des raisons de distance.
Et de logement. Mobilité. Et de logement aussi. Pour tous les saisonniers, il y a quand même aussi une problématique de logement dans des zones touristiques où il est difficile de loger les saisonniers.
Mais c'est un phénomène mondial. Donc là, on parle de quelque chose.
C'est vrai, c'est un phénomène mondial. La réaction de Sacha qui me met les super profits de Total ne sont pas réalisés en France. Les taxis revient à imputer la compétitivité de ce groupe face à ses concurrents.
Mais sur les fondamentaux, je veux bien réagir.
Alors, sur les fondamentaux, et je voulais aussi. aussi avoir votre... Comment vous, vous entendez le mot code d'alerte?
Je reviendrai sur la code d'alerte.
Non, c'est quand même un des mots de la semaine quand on suit l'économie d'à peu près. Quoi.
Non, sur les fondamentaux, je crois qu'on sait tous que les trois prochaines années vont être très difficiles. Donc on est à ce moment dans les montagnes russes, là on arrive en haut de la colline et on voit que... Voilà. Et je crois que c'est quand on, l'optimisme de Bruno Le Maire, c'est un peu un optimisme de quand on se compare, finalement on se dit c'est pas si mal.
C'est ça.
C'est-à-dire que le mix d'activités de la France est plutôt bien adapté à la situation. On s'est beaucoup plaint de la désindustrialisation, mais là en l'occurrence, les trois prochaines années, c'est plutôt une chance d'avoir une économie qui ressemble plus à celle des États-Unis qu'à celle de l'Allemagne, qui est très dépendante de sa chaîne d'approvisionnement, qui va prendre de plein fouet la hausse de toutes les matières premières et les carburants en tout genre. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, je crois que dans la satisfaction de Bruno Le Maire, il y a cette idée que finalement, quand on se compare... On voit comment on va les traverser ces trois prochaines années. En Allemagne, c'est beaucoup moins clair, en fait, jusqu'où ça peut descendre.
Ça va décélérer en Allemagne. Voilà,
ouais, voilà. Donc je crois qu'il y a ça. Et puis après, sur les finances publiques, en revanche, là, je trouve que le discours, c'est bien d'être optimiste et d'être le monsieur, soyons optimistes, mais dans le cas de Bruno Le Maire, je veux dire, mais là, il faut quand même commencer à discipliner un peu le discours. Et effectivement, le côté traité comme des chocs temporaires, des chocs qui ne sont pas temporaires, là, il a un train de retard pour le coup. C'est-à-dire qu'il est dans un discours sur l'inflation notamment, qui consiste à dire finalement la doctrine est la même que pour le Covid, il y a un choc, on va assurer complètement la société contre le choc. Or, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui plus pauvre qu'on l'était avant le choc, il faut se demander comment on va partager la facture du choc. Et ça, c'est le rôle du gouvernement quand même de poser cette question. C'est vraiment une question politique, c'est plus une question économique. Et donc là, en étant dans le déni, c'est-à-dire sur l'idée que c'est un choc très temporaire, le gouvernement, son rôle, c'est d'assurer, de préserver le pouvoir d'achat. Là, il y a un déni de réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préserver le pouvoir d'achat quand on est plus pauvre.
Juste une phrase
sur le boissier, allez-y, oui.
Sur la fin de ce que vient dire Augustin. C'est qu'en même temps, Bruno Le Maire, il vous explique que l'inflation va rester un problème jusqu'à la fin 2023.
En plus, voilà, donc il y a un problème de cohérence interne du discours.
C'est pas vraiment temporaire, ça. Et je pense que ça ancre les anticipations d'inflation à un niveau plus élevé. Et ça les ancre. Et ça entretient aussi le phénomène. Donc, par rapport à la gestion du temps, il y a un peu d'incohérence là aussi.
Oui. Deux minutes, la cote d'alerte.
Non, puis Isabelle sur la question de la confiance, moi je suis assez sensible à cette question de la confiance.
La confiance de qui envers qui?
Non, la confiance des Français en général.
Enfin, on a eu le chiffre INSEE, ça a baissé.
L'économie, elle fonctionne par la confiance. Donc c'est aussi important de la part du gouvernement de maintenir quand même un certain niveau de confiance. Faut pas être dans le déni non plus.
Si c'est pas crédible, c'est pire que tout.
D'accord. Mais il faut quand même, s'il y a des éléments qui plaident quand même en cette faveur, de pouvoir souligner ça et maintenir un certain niveau de confiance, parce que si vous regardez dans les scénarios qu'on élabore aujourd'hui, on a quand même l'idée que les agents économiques vont continuer de surépargner. Et donc, cette surépargne, ça veut dire que quelque part, ils sont un peu dans la défiance, ou ils n'ont pas confiance, ils sont dans l'attentisme, etc. Donc, si on peut amener des éléments de confiance qui fassent que les gens consomment un petit peu plus et épargnent un petit peu moins, eh ben, tant mieux, parce que c'est plutôt bon pour la croissance.
On comptait beaucoup sur la désépargne. On comptait beaucoup sur la désépargne de l'épargne Covid, qui fait à peu près sur deux ans 20-21 140 milliards d'euros.
Entre 140 et 160
Banque de France. On disait ça va aider les agents économiques, les consommateurs à maintenir leur consommation. Si c'est l'inverse qui se passe, on n'est pas très bien.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire les agents économiques de toute cette épargne accumulée?
Ils vont
financer l'État, c'est très.
Non, mais si on leur dit que l'inflation ne va pas décélérer avant mi-2023, à mon avis, ce n'est pas le meilleur signal à envoyer, par exemple. On marque une pause. Je pense que ce n'est plus la peine d'être crédible en France aujourd'hui, Augustin.
Mais regardez,
on peut arriver troisième à l'élection présidentielle en disant je vais dépenser 250 milliards et taxer 170 milliards.
Oui, donc ça, c'est un équilibre en théorie des jeux, c'est un équilibre de babbling où finalement, je sais que ce que vous dites n'est pas crédible et donc tout le monde se casse sur un discours comme ça.